Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bonjour Stéphanie. Stéphanie me fait signe parce que sa voix est cassée, donc on ne va pas beaucoup l'entendre aujourd'hui. Voilà, Radio Free Gaza est de retour. Et pourquoi est-ce que nous sommes de retour? Parce qu'il y a de nouveau une flottille qui part de plusieurs pays autour de la Méditerranée et qui vont aller vers Gaza pour essayer de briser le blocus qui existe depuis presque 20 ans, en fait. Voilà. Aujourd'hui, on aurait bien aimé d'avoir des personnes à bord de la flottille qui est partie de Marseille hier, entre autres les Mille Madeleines. Donc il y a, pour votre bonne compréhension, il y a plusieurs flottilles qui se sont rassemblées et qui vont aller ensemble. Il y a eu un départ hier à Marseille. Il y aura un départ la semaine prochaine, le 12 avril, de Barcelone, et d'autres départs vont suivre, notamment de l'Italie. Comme nous avons fait l'année passée à l'autre mission à laquelle nous avons participé, nous allons avoir tous les jours une personne qui est à bord d'un des bateaux de la flottille en direct. Et puis, nous aurons aussi, comme deuxième partie de l'émission, un entretien avec une personne qui va nous raconter des choses pour nous donner des clés pour mieux comprendre la situation en Palestine, pour expliquer ce qui se passe à Gaza, en Palestine et plus en général dans le Moyen-Orient. Voilà. Aujourd'hui, nous aurons comme invité Rami Abou Djamous, qui est un journaliste qui est basé à Gaza, que vous connaissez peut-être comme chroniqueur à Orient 21, avec son journal de bord de Gaza. Mais voilà, je vais directement essayer de l'appeler.
Allô?
Oui, bonjour Rami, c'est Hans ici, de Radio Free Gaza.
Ça va?
Ici ça va, et comment ça va chez vous?
Ça va, toujours vivant.
Voilà, très bien. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter brièvement?
Pardon?
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, ben, je m'appelle Rami Djamous, palestinien qui vit à Gaza. Je suis journaliste et je vis toujours à Gaza.
Oui.
48 ans, marié et deux enfants.
Oui, et ça fait 2 ans que vous faites, ou presque, que vous faites un journal de bord de Gaza sur Orient 21.
Oui, je collabore avec beaucoup de médias francophones. On est parmi les médias avec une façon presque quotidienne où on peut faire un article par semaine avec Orient 21.
Oui. Vous avez aussi écrit 2 livres, donc un journal de bord qui reprend certains de vos chroniques et un autre livre, Gaza, vie, histoire d'un père et de son fils. Et qu'est-ce que vous racontez dans ce livre, Gaza, vie, histoire d'un père et de son fils?
J'ai raconté la vie de n'importe quel père de famille, de n'importe quelle famille à Gaza qui a vécu l'occupation, qui a vécu au début l'accord de paix, le processus de paix, et puis la deuxième intifada, et puis l'occupation et les guerres en 2009-2014, et surtout ce qu'on est en train de vivre en 2023 après le génocide qui est toujours en cours. Et c'est une façon de comment un père de famille peut de protéger son fils. Oui. Et de le faire vivre dans un monde un peu à part, ou bien un monde virtuel, pour qu'il ne sente pas la peur, il ne sente pas l'obligation, il ne sente pas le danger, et surtout qu'il n'y aura pas de haine dans son cœur envers des gens qui le tuent, et que peut-être un jour on peut avoir la paix.
Oui. Ben, à présent, dans les médias, ici en Europe en tout cas, on parle beaucoup moins de Gaza, aussi avec la guerre qui a commencé contre l'Iran. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe pour l'instant à Gaza depuis ce soi-disant cessez-le-feu?
Déjà, pendant ces génocides, la couverture n'était pas à la hauteur, surtout en Occident. On était sous une guerre de génocide, mais en même temps, on était sur aussi une guerre médiatique de jamais vue, avec un arsenal médiatique qu'on n'a jamais vu. C'était toujours notre parole contre la leur, et malheureusement, ils sont toujours gagnants parce qu'ils ont une machine d'arsenal médiatique de jamais vu. Nous, c'est juste des petites voix qui sortent de Gaza, une petite plume qui sort de Gaza, des petites images qui sortent de Gaza. Et déjà, la couverture n'était pas à la hauteur. Mais une fois que ce cessez-le-feu a été signé, et malheureusement, on sentait que les gens, ou bien les médias occidentaux, c'était un fardeau pour eux de couvrir Gaza. Et donc, ils attendaient ce moment-là pour arrêter de parler de Gaza. Et malheureusement, le génocide est toujours en cours. C'est vrai que les bombardements, le rythme de bombardement a baissé. On n'a pas le même rythme qu'avant, des bombardements 24/7, mais malheureusement, le génocide est toujours en cours. Les bombardements, ça continue. Tous les jours, ce matin, il y a eu 4 personnes qui ont été tuées dans Gazaville, dans un quartier qui s'appelle Saht Chawa, la place de Chawa. Il y a eu 4 personnes qui ont été tuées par l'armée d'occupation. Tous les jours, c'est la même chose. À part les bombardements, il y a toujours cette ligne jaune qui a occupé presque 65 à 70% de la surface de la bande de Gaza. La majorité de la population est toujours sous des tentes, est toujours dans les rues, toujours dans le mur des cas sous des bâches. Et l'aide humanitaire, il n'entre pas. Même après le cessez-le-feu, il fallait rentrer 600 camions par jour. Il en est rentré 250. Aujourd'hui, après la guerre israélo-américaine contre l'Iran, on est à 150 camions par jour. Et c'est parmi ces 150 camions par jour, la moitié, c'est le secteur privé. Donc, il faut payer de l'argent pour avoir des denrées. Et malheureusement, il n'y a plus de pouvoir d'achat pour la population. 90% à 95% de la population dépend de l'aide humanitaire parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ceux qui avaient de l'argent, ils ont perdu leur argent. Ceux qui avaient du travail, ils n'ont plus de travail. Ceux qui avaient un business, ils n'ont plus de business. Ceux qui avaient un peu d'argent à côté, ils ont perdu leur économie. Donc, maintenant, presque 90 à 95% de la population dépend d'aide humanitaire. Cette aide humanitaire, elle entre à grandes gouttes. Donc, on est toujours dans la non-vie. On est toujours dans la non-paix, non-guerre. Et surtout, on est toujours dans l'humiliation et la souffrance.
Oui. Et si j'ai bien compris, en fait, Israël est toujours occupé à grignoter, en fait, sur le territoire. Et en fait, vous êtes de plus en plus sur une surface de plus en plus petite.
Oui, avant on était dans on peut dire une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, on est dans une cage à ciel ouvert. La majorité de la population, ce qui reste de 2,3 millions de personnes après ces génocides, vivent sur juste 35% de la surface. Donc à peu près, on est à 120 km carrés que toute cette population y vit. Bien sûr, dans des conditions de vie très difficiles, où on n'a plus d'infrastructures, il n'y a plus d'infrastructures sanitaires, il n'y a plus d'hôpitaux. Parmi une trentaine d'hôpitaux, il y a juste 4 ou 5 qui marchent. Parmi les secteurs des hôpitaux publics, il n'y en a que 2 et qui fonctionnent toujours de façon partielle. Il n'y a plus d'université, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de jardin d'enfants. Tout a été détruit. Donc, c'est vraiment pas un génocide, mais un gazacide, parce que tous les piliers de Gaza, que ce soit la terre, l'homme, l'arbre, la mer, même le ciel, tout a été malheureusement tué. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans cette non-vie où la population de Gaza n'arrive pas à vivre correctement. On est en train de vivre avec des conditions sanitaires très difficiles. Là, c'est bientôt l'été. Sous une tente, c'est vraiment vivre dans l'enfer avec les rongeurs, avec les rats. Ouais. On découvre aujourd'hui nouvelles maladies qu'on n'a jamais entendu parler, des maladies respiratoires, des maladies dermatologiques. Des maladies de jamais vues. Et en plus, on n'a pas de moyens de traiter ces maladies-là. Il n'y a plus d'hôpitaux. Pendant la guerre, il y avait des ONG internationales qui ont pu faire ce qu'on appelle des hôpitaux de campagne à Gaza. Malheureusement, ces ONG, ou bien un certain nombre de ces ONG-là, comme Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, d'autres ONG, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de travailler comme il faut. Ils sont bannis. Et donc là, on a peur aussi que ces hôpitaux de campagne, ils seront aussi bannis et qu'il n'y aura plus d'aide humanitaire et d'aide surtout sanitaire pour la population au niveau de la santé.
Oui, oui. En plus, quand on regarde un peu plus loin que Gaza, on voit que la manière d'attaquer le territoire, les gens, la nature, enfin tout l'écosystème, en fait, on voit que c'est répété maintenant dans le West Bank, à Jérusalem. Maintenant, on va au Liban aussi et partout. En fait, on essaie de complètement faire disparaître la population. Gaza est devenu une sorte de laboratoire.
C'est la fameuse phrase que l'on tient tout le temps, c'est qu'Israël a le droit de se défendre, mais en fait, c'est pas Israël a le droit de se défendre, mais plutôt Israël a le droit de s'étendre. Ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ce gouvernement israélien, c'est de s'étendre. Ils l'ont dit clairement. Netanyahou, il a parlé de grand Israël. Ses ministres, ils ont parlé de grand Israël. Et malheureusement, ça a choqué personne. Mais par contre, si on parle de la libération de la Palestine, bah, tout le monde se bouge. Et si on parle de la résistance, que ce soit militaire ou populaire, tout le monde manifeste. Et Israël a le droit de se défendre. Mais quand un chef de gouvernement israélien qui parle d'Allemagne, Israël, veut occuper la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, du Nil jusqu'au Euphrate, ça n'a choqué personne, malheureusement. Et l'Israël est dans le droit de s'étendre. Mais par contre, quand il s'agit des Palestiniens et qu'on veut libérer la Palestine et qu'il reste de la Palestine, on est des terroristes.
Oui, tout à fait. Ici aussi, en fait, on a remarqué comme c'est de plus en plus difficile de se faire entendre par rapport à ce qui se passe à Gaza ou en Palestine. Maintenant, il y a une nouvelle flottille qui se met en marche. On le voit par exemple si quand on essaye de publier sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est devenu très très compliqué. En fait, il y a les algorithmes qui ont été trafiqués d'une certaine façon et on essaye vraiment de, sans le dire, de censurer aussi tout ce qui se passe ailleurs en soutien avec la Palestine. Donc voilà, donc nous de notre côté aussi on essaie de se battre. Donc il y a une nouvelle flottille qui se met en route. Qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait? Est-ce que c'est utile selon vous?
C'est toujours symbolique parce qu'on sait très bien que déjà il faut saluer le courage des gens qui organisent ça et qui montent dans ce genre de flottille, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont affronter un terrorisme d'État, l'État d'Israël, et surtout le ministre de la sécurité Beni Gvir, que lui ils essayent de humilier ces gens-là, de les prisonnier, de les mettre dans les prisons, et même s'il peut les torturer, il va pas dire non parce que c'est sa politique. Et il le dit clairement. Donc je salue leur courage, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils leur attendent, surtout d'un État impuni. Donc il n'y a pas malheureusement de sanctions contre cet État-là. Même des pays membres, que ce soit de l'Union européenne où il y a des ressortissants qui ont été arrêtés. Parfois il y avait des parlementaires et malgré ça il n'y a pas eu de réaction politique. Donc c'est un feu vert de continuer jusqu'au bout. Je salue ces gens-là parce que ils sont pour la justice. Ils sont pour la justice qui règne, qui sont contre le colonialisme, contre l'occupation. Et ils savent très bien qu'est-ce qui leur attend. Et c'est un grand courage que je salue beaucoup. Et c'est toujours symbolique parce qu'ils savent très bien qu'à la fin, ils vont pas avoir accès à Gaza et que l'armée d'occupation, ils vont les intercepter dans les eaux, même pas dans les eaux d'Israël ou bien de Gaza, mais plutôt dans les zones internationales. Et ce qui fait que voilà, c'est l'impunité totale. Mais c'est déjà bien de parler de ça parce qu'il y aura une couverture médiatique après. C'est vrai que la couverture médiatique n'est pas à la hauteur. Et il y a certaines personnes qui participent dans ce genre de foutis, ils sont après punis d'une façon et d'une autre, que ce soit juridiquement ou bien soit par la justice, soit par les boycotts, soit par les diffamations sur Internet, avec les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment un grand merci à ces gens-là et à leur courage que je salue et que tout au nom de toute la population palestinienne, surtout à Gaza. Mais ça reste vraiment symbolique parce qu'on sait très bien que c'est des gens qui essayent de passer ou bien de traverser certaines forteresses, de dire que il y a des gens qui subissent l'injustice et qui subissent un génocide et on veut les aider ou bien on veut parler, que les gens continuent à parler d'eux. C'est un grand courage et c'est une grande mobilisation que toute la population de Gaza et de la Palestine l'apprécie vraiment et remercie du fond du cœur.
Ben, merci beaucoup, c'est vraiment chouette d'entendre ça. Mais à côté de la flottille, qu'est-ce que vous pensez que ici en Europe, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour
Il faut continuer à parler de la Palestine. Il faut pas arrêter. Ouais. Il faut continuer jusqu'au bout. Il faut toujours parler de la cause palestinienne, parler de ce qu'on est en train de subir. Chacun il peut faire à son niveau, dans sa famille, dans son quartier, entre ses amis, entre ses voisins, propager ce courage. De soutenir la justice et que un jour cette justice va régner et continuer à parler de tout ce qu'on est en train de vivre en tant que génocide, nettoyage ethnique et surtout continuer dans tous les domaines médiatiques et juridiques et passer par les tribunaux, continuer à affronter ce terrorisme d'État qui est en train de même dans les pays européens est en train de faire du sorte que toute personne critique Israël soit punie. On a vu récemment là la nouvelle loi de Yadon qui fait l'amalgame entre l'antisionisme et l'antisémite ou l'antisémitisme. Et c'est exactement ce qu'ils cherchent. Ils veulent fermer les bouches des gens. Ils veulent coincer ou bien menotter les gens pour qu'ils parlent pas de la Palestine, pour qu'ils parlent pas de la justice qu'on est en train de subir. Continuez jusqu'au bout et un jour, La justice régnera.
Ok. Merci, Rami. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez nous raconter?
À part vous remercier beaucoup votre courage et surtout pour ceux qui vont participer à la flottille. C'est vraiment très apprécié et ça nous touche la population palestinienne au fond du cœur parce qu'on se sent qu'on n'est pas abandonné, quoique on est abandonné par les gouvernements, surtout par l'Occident. Mais la population, on voit très bien comment les populations, ils se sont mobilisées et on sait très bien que cette mobilisation, si ça continue, ça va faire un vrai changement au sein du gouvernement et la politique va changer. On a vu ça dans d'autres pays. Moi, je conseille aussi que les autres pays prennent la voie de l'Espagne, qui a très bien montré qu'on peut arrêter, on peut faire des sanctions et que l'Europe, ce n'est pas, comme on dit chez nous, la queue d'Israël, qu'il joue avec cette queue comme il veut, mais plutôt un organisme qui peut faire quelque chose, qui peut arrêter ce génocide, qui peut arrêter ce nettoyage ethnique et qui peut finir par la justice, surtout qu'on a toujours entendu parler que de l'Europe, des valeurs humaines, les valeurs de droits de l'homme, les valeurs humaines, mais malheureusement, apparemment, ces valeurs-là, ils ont du couleur et de la géographie, et quand ils concernent les Palestiniens, c'est plus le cas.
Oui, bien entendu. Merci beaucoup, Rami. J'espère à bientôt.
Merci à vous, Hans. Merci de m'avoir donné la parole et merci pour tout ce que vous faites. Et vraiment, tout mon courage pour la flottille. Et j'espère qu'ils ne vont pas avoir des problèmes ou bien de subir le terrorisme, surtout de l'État d'Israël.
Merci beaucoup, Rami. À bientôt.
Merci. Au revoir.
Voilà, c'était notre premier épisode un peu improvisé. En fait, on a décidé hier qu'on allait faire quelque chose. Mais nous faisons déjà rendez-vous pour la semaine prochaine, le 12 avril. Ce sera le départ de Barcelone et ce sera le départ du Global Summit Flotilla. Il faut savoir, c'est un peu compliqué toute cette flotille. Il y en a plusieurs. Mais ce qui est important, c'est que cette fois-ci, tout le monde va à Gaza ensemble. Donc il y aura, j'ai entendu, plus que 80 bateaux. Il y aura un millier de participants sur le bateau. Donc c'est vraiment une grosse, grosse opération. Et nous allons vous tenir au courant tous les jours à partir de dimanche 12 avril qui vient. Donc bon, la prochaine fois, j'espère aussi que la voix de Stéphanie sera revenue et elle pourra nous raconter plein de choses aussi. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine.